Mais oui, bien sûr.
Je le savais.
Eureka.
C'est une épopée médicale et chirurgicale que nous allons vous raconter aujourd'hui, celle de la greffe d'organes. Longtemps jugée impossible du fait de leur complexité, c'est au XXe siècle qu'ont été réalisées les premières transplantations grâce à des avancées majeures en biologie, en immunologie et en chirurgie. L'histoire des greffes d'organes est aussi une histoire de tentatives et d'échecs à répétition qui ont tous contribué à l'avènement d'une pratique qui permet aujourd'hui à des patients non plus de connaître l'opération de la dernière chance, mais celle de la deuxième chance. Greffe d'organes, la vie en pièces détachées, c'est le programme chirurgical qui est le nôtre pour l'heure qui vient. Bienvenue dans Eureka. Et pour nous raconter cette histoire de la greffe d'organes, nous avons le plaisir de recevoir aujourd'hui Karim Boudjema. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes professeur de chirurgie à la faculté de médecine de Rennes, directeur du programme de transplantation hépatique au CHU de Rennes. On vous doit l'invention de la greffe auxiliaire du foie et on en parlera bien évidemment dans cette émission. Nous sommes également en ligne avec Jean-Noël Fabiani-Salmon. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes l'ancien chef du département de chirurgie cardiovasculaire de l'hôpital Pompidou. Et pour démarrer cette émission, on file directement au bloc opératoire dans une ambiance un petit peu proche de celle de Frankenstein. C'était en 1958 en URSS.
Le chirurgien russe Vladimir Demikov et ses bêtes sont à l'origine des plus singulières expériences de notre époque. Les images qui vont suivre ne sont pas pour les personnes sensibles, mais nous avons cru devoir éditer ce document unique en raison des perspectives qu'elles ouvrent à la science en défiant l'imagination. Après avoir prélevé un cœur et des poumons sur un chien, Vladimir Demikov a pu les greffer sur un autre animal sans que le cœur s'arrête. Cette opération s'était heurtée jusqu'à présent à des difficultés que l'on pouvait croire insurmontables. L'opération terminée, l'animal a pu vivre avec deux cœurs pendant un mois. Et le chirurgien pense que le jour est proche où il pourra tenter la greffe du cœur humain. En attendant, il a réussi une opération plus spectaculaire. La greffe d'une tête vivante sur un animal vivant en détournant une partie de la circulation artérielle et veineuse sur cette deuxième tête parasite. Et cette intervention à peine croyable a réussi déjà deux fois. On a vu des chiens à deux têtes créés par l'homme vivre. On a vu les deux têtes laper ensemble leur lait. On a vu chacune des têtes avoir ses propres réactions. On ose à peine imaginer les prolongements étonnants que peuvent avoir ces expériences pour le genre humain.
Karim Boudjema, déjà pas mal de choses dans cette archive volontiers très spectaculaire. On est dans les années 50, on sent une ambiance un petit peu de film. Expliquez-nous un petit peu cette archive-là et en tout cas, quelle est votre réaction à ce que vous entendez là?
Probablement celle qu'ont eu tous les gens qui ont entendu cette histoire. Lorsqu'on est capable de changer le cœur, le poumon et la tête, on touche à l'immortalité. Mais on se dit, un jour, je pourrai vivre indéfiniment. Il suffira de me changer le cœur, les poumons et la tête. Le problème, c'est que on ne trouve pas de bonne tête partout. Et c'est probablement là l'origine de cet échec. Si je peux me permettre, ce chirurgien russe n'a pas été le premier, contrairement à ce que l'on croit, à réaliser ce type d'intervention. Déjà, Alexis Carrel, Cocorico, c'est un Français, un Lyonnais, qui travaillait certes aux États-Unis, faisait des transplantations croisées de tête chez le chien, donc avec son ami Charles Guthrie, au début des années 1900, en 1906 exactement. Et cela lui a été très vite reproché parce que les sociétés protectrices des animaux se sont évidemment insurgées contre ces pratiques.
Et on viendra bien sûr à cette figure tutélaire d'Alexis Carrel en matière d'histoire de greffe. Jean-Noël Fabiani-Salmon, une petite réaction à cette archive. Et puis finalement, est-ce que la transplantation d'organes, la greffe d'organes est un fantasme aussi vieux que la médecine elle-même?
D'abord, moi, je pense que ce qui a été rapporté dans cet archive, c'est une fake news, c'est complètement faux. On ne peut pas transplanter une tête. Plutôt, ça serait un corps qu'on transplanterait sur la tête, parce que le soi, c'est la tête, c'est le cerveau. Et ça, personne n'est capable de le faire. Mm-hmm. Et je crois que notre ami Carrel, eh bien, il a transplanté des pattes de chien, ce qui était déjà terrible à l'époque, mais il n'a pas transplanté de tête, à ma connaissance. Mm-hmm. Je peux me tromper, évidemment. Le rêve que vous évoquiez. C'est le rêve qu'on voit dans ce petit tableau de Fra Angelico. On voit Saint-Côme et Saint-Damien, les deux saints représentant la médecine et la chirurgie, en train de transplanter la jambe d'un maure, M-A-U-R-E, sur un chrétien pour lui sauver la jambe. Et d'ailleurs, cette petite peinture a beaucoup de signification parce que elle signifie d'abord qu'au Moyen-Âge, on transplante une jambe parce qu'on ignore totalement les organes qu'il y a dans le corps. C'est-à-dire qu'il n'est pas question de cœur, de tête, de foie. On ignore l'anatomie au Moyen-Âge. Donc, une jambe, on sait au moins à quoi ça sert et on transplante ce qui sert. Et d'autre part, on transplante la jambe d'un mort parce qu'il n'est pas chrétien. Et donc, on peut très bien prendre un organe de quelqu'un qui n'est pas chrétien parce que les chrétiens espèrent la résurrection de la chair et donc ils doivent garder en quelque sorte leurs organes, ce qui est quand même un problème, qui est encore un problème aujourd'hui dans beaucoup de cultures. Mmh. Donc vous voyez, cette petite peinture qui date du Moyen-Âge presque, eh bien elle évoque déjà un certain nombre de grands problèmes de la transplantation.
Karim Boudjema, cette transplantation-là, on le sait, elle connaît son avènement au 19e, au 20e siècle. Avant cela, est-ce qu'il y a quand même eu des avancées, par exemple à la Renaissance, au moment du développement de la chirurgie de guerre, notamment avec des greffes de peau, des autogreffes de peau? Est-ce que ça, c'est des choses qui trouvent leur origine aussi au moment de la Renaissance?
Au moment de la Renaissance, probablement pas, bien plus tard. Mm-hmm. La guerre a, comme vous le dites, souvent, en dehors du côté horrible qu'elle représente, amené des progrès techniques et des progrès en médecine en particulier considérables. La guerre de 14-18, l'utilisation du gaz moutarde, mm-hmm. par exemple, a été à l'origine de la découverte de ce qu'on appelle le melphalan, qui est un inhibiteur de la prolifération des cellules médulaires. Je passe les détails, mais qui va être utilisé au début de la transplantation. La guerre de 39-45 avec les greffes de peau chez les brûlés va amener des progrès considérables, en tout cas va permettre de comprendre le mécanisme de rejet et le support lymphocytaire du mécanisme de rejet. Donc les guerres, oui, mais peut-être pas au Moyen-Âge.
Alors on va arriver assez rapidement du coup au 19e siècle, un siècle déterminant, non pas tant dans l'acte de transplantation et dans l'acte de greffe d'organes, Jean-Noël Fabiani-Salmon, mais plutôt dans les découvertes en matière de biologie, en matière de médecine, en matière d'immunologie. Peut-être qu'on peut rappeler un petit peu en quoi ce siècle a posé des jalons essentiels à la pratique au XXe siècle de la transplantation d'organes.
Oui, alors quand même, il faut quand même qu'on dise, puisque vous avez posé la question, que la Renaissance, hein, on faisait des greffes de nez, mm-hmm. en particulier un fameux Gaspare Tagliacozzi, qui en 1570 a mis au point une technique d'autogreffe de nez, parce que c'était le grand problème de la guerre de l'époque, on coupait le nez de son ennemi. Donc, et ça marchait très bien, ça donnait de très bons résultats, parce que c'était une autogreffe, parce que, évidemment, les choses qui vont se comprendre assez rapidement, c'est qu'autant les autogreffes vont fonctionner, autant les homogreffes et les hétérogreffes, c'est-à-dire celles venant d'animaux, encore moins. Donc, les gens comprennent ça au 19e siècle. Celui qui comprend bien ça, c'est un certain Reverdin qui fait des greffes de peau et qui comprend très bien la différence entre, justement, autogreffes, c'est-à-dire celles qu'on se fait à soi-même, allogreffe, c'est celle que l'on fait à quelqu'un de la même espèce, et hétérogreffe ou xénogreffe, c'est celle qu'on fait aux animaux. Mmh. Et ça, les gens comprennent ça au 19e siècle. Ça n'empêche pas les chirurgiens de faire n'importe quoi et de continuer à faire des opérations qui n'ont aucune chance de fonctionner. C'est-à-dire qu'ils greffent... Chibray a quand même greffé des yeux de lapin à un homme. On greffait aussi, et c'était la grande mode, des testicules de singe à ceux qui se sentaient un petit peu limite sur ce plan-là. Donc, personne n'a rien compris à la greffe pendant très longtemps. Faut être honnête, le premier qui comprend quelque chose à la suite d'un épisode qui était d'ailleurs l'assassinat du président de la République de l'époque, c'est Alexis Carrel. Mmh. Parce qu'Alexis Carrel va être le premier à comprendre que pour qu'un organe puisse être transplanté, il faut raccorder ses vaisseaux, l'artère et la veine, sinon il n'y a aucune chance de survivre. Ça n'a l'air de rien, mais c'est le premier, vraiment le premier point qui chirurgicalement va permettre de faire des greffes d'organes. Et alors, dans le même temps, puisque c'est la question que vous posiez, il y a des gens qui travaillent déjà sur l'immunologie, il y a des gens qui ont compris ce que c'était que les anticorps, c'est von Behring, il y a des gens qui ont compris ce que c'était que la phagocytose, c'est Metchnikoff à Paris, et puis très rapidement, on va comprendre ce que c'est que le complément. Mais on ne fait pas le rapport entre les deux. C'est ça qui est extraordinaire, c'est que Carrel, qui est pourtant un fantastique cerveau, un fantastique chirurgien, ne fait pas la relation entre la greffe et ses découvertes en immunologie fondamentale de la fin du 19e siècle.
Karim Boudjemal en touche à l'un des points clés en matière de transplantation d'organes, c'est la compréhension de la vascularisation. Il y aura quatre grands axes qui accompagneront cette émission. C'est à la fois cette compréhension de la vascularisation, la compréhension autour du rejet du greffon, la compréhension, le travail sur le prélèvement de greffons vivants, puis ensuite le traitement des rejets chroniques de greffons. Tout ça accompagnera vraiment notre discussion. Si on en vient à cette compréhension de la vascularisation par Alexis Carrel au début du XXe siècle à Lyon, qu'est-ce qu'il met en place et pourquoi c'est finalement lui qui peut être considéré un petit peu comme le père de la transplantation d'organes?
Parce que la transplantation d'organes, ça n'est ni plus ni moins qu'une succession de sutures vasculaires. On suture une artère, on suture une veine, et puis le conduit fonctionnel, si je puis dire, comme l'urtère pour les reins, comme le canal biliaire pour le foie. Donc ce n'est que, entre guillemets,
de la tuyauterie
et de la suture. Et il se trouve que Alexis Carrel, donc au début du XXe siècle, travaille dans le service de Monsieur Mathieu Jaboulet, qui est un chirurgien assez exceptionnel, qu'on vient voir de partout opérer, qui est extrêmement doué, qui travaille sur la suture vasculaire avec l'intention, un jour, de pouvoir greffer des organes. Alors, il pense pas aux reins tout de suite, il pense à la thyroïde, en particulier pour soigner les hypothyroïdies. Il y en avait pas mal, en particulier dans les Alpes. Il en vient finalement avec son élève, donc Alexis Carrel, à envisager la greffe de rein. La greffe de rein, c'est sans doute ce qu'il y a de plus utile et utilisable immédiatement, parce qu'il y a une maladie qui sévit à l'époque qu'on appelle le mal de Bright, qui est cette insuffisance rénale chronique post-streptocoxique, celle qui complique, je raccourcis, les angines, on n'avait pas d'antibiotiques, et il y avait comme ça dans la population beaucoup de ces jeunes personnes, hommes, femmes, qui mouraient d'insuffisance rénale et qu'on ne pouvait que se contenter de voir mourir. Mm-hmm. On ne savait faire rien d'autre que de les voir s'éteindre tout doucement, et c'était vraiment très très dur. D'où l'idée, donc, de leur changer le rein.
Est-ce que le rein, c'est finalement, alors il y a parmi les organes qu'on peut greffer, on pense au rein, on pense au foie, on pense au cœur, et éventuellement, est-ce que le rein, c'est plus simple que ces autres organes que je viens de nommer?
Peut-être, mais à l'époque, c'était considérablement difficile. Je crois qu'on n'imaginait même pas pouvoir un jour greffer un cœur, quoique Jean-Noël Fabiani nous dira. La rencontre de Carrel avec Lindbergh est allée un petit peu dans ce sens de pouvoir un jour opérer un cœur, puisque Lindbergh, pour la petite histoire, avait une belle-sœur qui était atteinte d'insuffisance mitrale. Mm-hmm. Et c'est lui qui est allé voir Carrel en lui disant qu'est-ce qu'on peut faire pour aller lui réparer la mitrale et assurer une circulation pendant ce temps. Donc, c'est surtout le rein qui a été qui a été la préoccupation première d'Alexis Carrel. C'est sur cet organe donc qu'il a appliqué ce qu'il avait inventé, la suture en triangulation. C'est tout bête, suture en triangulation.
Expliquez-nous.
On met un vaisseau, c'est rond. Il suffit que vous mettiez un fil tracteur à tous les 60 degrés et vous tirez dessus et ça vous transforme le cercle en triangle. Et il est facile à ce moment-là de suturer, de faire un surjet sur chacun des côtés du triangle. Ça permettait donc de suturer des tout petits vaisseaux. Avant lui, son maître et patron, Mathieu Jaboulet, utilisait des petits anneaux de magnésium. Aucune chance que ça marche. Et quand Jaboulet a réalisé ses premières greffes, qui étaient des xénogreffes, il a utilisé une fois un rein de porc, l'autre fois un rein de mouton implanté.
Qu'on greffait au pli du coude.
Au pli du coude chez de malheureux malades qui mouraient d'insuffisance rénale. Inutile de vous dire que ça n'a pas marché. Alors on a incriminé la suture elle-même, on n'imaginait pas que derrière tout ça, il y avait une incompatibilité énorme, celle des espèces finalement. La transgression d'espèces, c'est pas pour demain, mais voilà, ça ne marchait pas. Mais effectivement, la suture vasculaire, c'est le béaba de la transplantation. Et ça reste le béaba du succès de la transplantation.
Jean-Noël Fabiani-Salmon, une réaction?
Oui, comme disait Boudjema, c'est tout à fait exact que la suture a été vraiment la révolution. Et d'ailleurs, Carrel, qui était un petit bonhomme avec des petites mains, avait quelques difficultés à suturer au départ. Il est allé même s'entraîner chez une dentelière de Lyon pour lui apprendre à faire des sutures très rapidement. Et il a progressé très vite. Pourquoi il fallait faire des sutures très très vite? Et donc, en fait, il invente la chirurgie vasculaire parce qu'on n'a pas l'héparine. On se rend pas compte de ce que ça veut dire. C'est-à-dire que si on arrête la circulation dans un vaisseau, au bout de quelques minutes, il va y avoir un caillot. Aujourd'hui, bien sûr, on n'a plus ce problème puisqu'on a des anticoagulants très facilement utilisables. À l'époque, on n'en a pas. Il faut donc aller très vite et être en même temps très efficace parce qu'une fois qu'on aura rétabli la circulation, il faut pas non plus que ça fuit. Donc, Carrel fait un travail absolument extraordinaire sur le plan de la chirurgie vasculaire. Il invente la chirurgie vasculaire, ce qui va lui valoir le prix Nobel. Parce que c'est bien le seul chirurgien qui, à titre personnel, a eu le prix Nobel de médecine et de chirurgie en 1912, bien sûr pour la transplantation, mais aussi pour avoir inventé, en quelque sorte, la suture vasculaire. Et c'est d'ailleurs le premier prix Nobel, il l'a au titre des États-Unis, hein, on est bien d'accord, pas au titre de la France, qu'il l'avait laissé partir, parce qu'il était catholique, tout simplement, il l'avait laissé partir, et on voulait pas de catholiques dans les chirurgiens des hôpitaux à l'époque, surtout à Lyon, et donc il était parti en Amérique. Il a eu donc ce prix Nobel au nom de l'Amérique, et c'est le premier prix Nobel américain. Ils se sont rattrapés depuis, ils en ont eu bien d'autres.
Après avoir compris du coup un petit peu comment fonctionnent d'un point de vue vasculaire ces organes, on va en arriver à un autre problème majeur en matière de transplantation d'organes, c'est la question de l'immunologie et la question du rejet des greffes.
Professeur, il faut sauver les mains de Stéphane Orlac. On voulait l'emmener à Beaujon, j'ai supplié qu'on le transporte ici. Parrain m'a parlé de vos miracles. Sans ses mains, Stéphane serait un mort vivant.
Soit. Par amitié pour des crochons et par amour de la musique, je vais tenter l'impossible.
France Culture.
Mais avant, il faut me sustenter.
Eureka.
Pas de miracle avec un ventre vide.
Antoine Beauchamp.
Les mains d'Orlac d'Edmond Gréville en 1960. Un petit clin d'œil au passage. Les greffes de mains, ça arrive beaucoup plus tard. Karim Boudjema, on est dans les années 80.
1998, avec Jean-Michel Max Dubernard à Lyon, qui est urologue. C'est pas lui qui fait la greffe de main, mais il coordonne, il a ce génie. D'abord, il est passionné de transplantation. Il met au point des techniques de transplantation rénale, pancréatique. Enfin, c'est vraiment un grand monsieur. Mmh. Et il coordonne les équipes donc de chirurgie de la main, de chirurgie des petits vaisseaux, de microchirurgie, d'orthopédiste pour réaliser la première transplantation de main en septembre, il me semble, 1998.
Véritable prouesse.
Prouesse technique, et puis ça va marcher. Ça, finalement, le receveur va demander à ce qu'on lui enlève son greffon parce que la rééducation était trop difficile pour lui, et finalement, ça lui, entre guillemets, pourrissait la vie, donc il préférait vivre sans main et avec une prothèse. Mais cette greffe de main a marché, et les greffes de main, de bras, aujourd'hui, fonctionnent. Les greffes de membres fonctionnent. On appelle ça, d'ailleurs, des greffes tégumentaires. On greffe des visages, on greffe tout, aujourd'hui. Tout est possible.
Alors, avant d'en arriver à ce champ des possibles en matière de greffe, on va revenir à ces pionniers en matière de transplantation et aux obstacles finalement qu'ils ont rencontrés et qu'ils ont su surmonter, parce que je te disais en début d'émission, Jean-Noël Fabiani-Salmon, l'histoire des transplantations d'organes est un parcours semé d'embûches, semé d'échecs, mais avec des savants et des scientifiques qui y croient. Si on avance un petit peu dans le temps, on arrive aux années 30 avec un certain Yuri Voronoi. Quel a été son apport à lui en matière de compréhension, en matière d'immunologie en ce qui concerne la transplantation?
Bien, écoutez, il y a eu, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'était ce qui était incroyable, c'était que on ne comprenait pas, en quelque sorte, ce qu'était le rejet. Quoique, même avant Voronoi, il y a eu quand même des gens qui, aux États-Unis en particulier, ont compris dès les années 1910-1912, comme James Murphy, que le rejet était lié à ce qu'ils appelaient à l'époque les petits globules blancs. Et ils avaient même montré à l'époque que quand on utilisait les rayons X, ça diminuait le rejet. Et puis, il faut bien reconnaître aussi que un certain Holman, à la même époque que Voronoi, eh bien, est capable de montrer qu'avec les greffes de peau, il y avait une stimulation de réaction de défense spécifique à partir du moment où il y avait une greffe qui était une greffe étrangère, une greffe d'un autre individu. Et que là encore, on avait très bien repéré que c'était les globules blancs et les anticorps, déjà, qui étaient responsables. Mais les chirurgiens n'écoutent pas, en quelque sorte, tous ces travaux, puis ça les intéresse pas tellement. Et donc, ils vont continuer à faire des transplantations sans tenir compte des problèmes immunologiques.
Karim Boudjema, les chirurgiens n'écoutent pas, ils vont quand même finir par écouter. En tout cas, si on en revient à Voronoi, techniquement, concrètement, qu'est-ce qu'il comprend d'un point de vue métabolique, biologique, autour de l'immunité, autour de ces globules blancs?
Je crois que Yuri Voronoi, Yu-Yu, pour les intimes, puisque c'est comme ça que l'appelait le personnel de son équipe. Il était adoré par son équipe, Yuri Voronoi. Il était chirurgien à Kherson, en Ukraine. Hein. Et donc, il fait cette première transplantation, mais dans des conditions inimaginables. Il va prélever un cadavre, pour ainsi dire. Le rein a plusieurs heures d'ischémie, c'est-à-dire n'est plus vascularisé du tout, donc tout ce qu'il faut pour tuer toutes les cellules. Il le greffe à une jeune femme qui a eu la bonne idée de vouloir se suicider en buvant du mercure, donc qui altère à la fois les vaisseaux, les poumons, le cerveau, absolument, le cerveau et les reins, et il lui greffe donc un rein à la racine de la cuisse. Vous imaginez un petit peu la chose et le chantier avec un urtère qui pendouille, pour ainsi dire. Ça ne marchera pas. Je ne vous
pas. Spoiler, ça n'a pas marché.
Zut, ça n'a pas marché. Donc ça ne marchera pas. Oui. Mais Yuri Voronoi décrit dans un article qui sera publié en espagnol, on se demande bien pourquoi, dans une revue espagnole, que l'urtère était animé, l'urtère, donc le conduit urinaire, était animé de contractions, ce qu'on appelle le péristaltisme, ce qui laisse supposer, d'abord qu'il devait souffrir beaucoup, qu'il avait souffert beaucoup, mais qu'il y avait encore des cellules vivantes. Alors, Yuri Voronoi, il en fera d'autres, hein, des transplantations rénales, mais je crois qu'il ne laissera rien d'autre à l'histoire de la transplantation que d'avoir été un des tout premiers à tenter la transplantation et finalement être le chef de file de ces chirurgiens qui osent tout, qui ne reculent jamais devant l'échec, qui avancent de manière imperturbable et qui finissent par y arriver.
Jean-Noël Fabiani-Salmon, ce qui est intéressant dans l'histoire de la transplantation médicale, c'est que assez rapidement, finalement, à l'échelle de cette histoire de la transplantation, on essaie de trouver des alternatives à ce rejet-là et assez rapidement, finalement, on développe des organes artificiels, à commencer par le rein artificiel dans les années 40 aux États-Unis. Alors, comment ça fonctionnait, ce premier rein artificiel? On imagine que c'était peut-être moins perfectionné qu'aujourd'hui, mais le fonctionnement devait être à peu près similaire.
Alors, soyons justes. L'invention du rein artificiel, c'est Willem Kolff. C'est un Néerlandais qui invente un rein artificiel pendant la guerre, pendant la guerre de 39-45, et il va, c'est une espèce de lessiveuse, il a été chercher des membranes dans une usine de saucisses, puis il n'y avait plus de saucisses pendant la guerre, donc il a utilisé les membranes comme membranes, il a fait une espèce de sauce, enfin, il a réussi à faire ce qu'on connaît maintenant comme étant un rein artificiel permettant la dialyse. Eh bien, les 15 premiers cas qu'il essaye de traiter ne fonctionnent pas, soyons clairs. Le seul qui fonctionne, c'est juste en 45, où il obtient la première réussite d'une filtration rénale par son appareil, son rein artificiel. Ensuite, après la guerre, Amburgé, le néphrologue français, aurait bien voulu récupérer le rein artificiel à Paris. D'ailleurs, Kolff sera gentil, lui en donnera un au passage. Mais il décide de partir aux États-Unis. Il voit bien que c'est là où les organes artificiels ont des chances de réussir. Il va partir aux États-Unis. Il va développer les membranes. Il va développer aussi les membranes de filtration, les membranes pour les circulations extracorporelles. Et il va inventer aussi le premier cœur artificiel. Il faut quand même être clair qu'il fonctionne. Il va fonctionner chez l'animal. Et ensuite chez l'homme. Donc, c'est Wilhelm Kolff qui est l'homme du rein artificiel. Et ce rein artificiel est vraiment fondamental pour la transplantation rénale, parce que quand on voit ce qui se passe dans les années 50 en France, l'affaire du pauvre petit Marius Renard, le petit charpentier qui tombe, qui se casse le rein, le chirurgien lui enlève le rein, malheureusement il a qu'un rein, il est en insuffisance rénale, toute la France panique pour l'histoire du petit Marius, et on n'a pas de rein artificiel, il faut donc assez rapidement le transplanter, lui faire une transplantation rénale. Et là encore, en Burger, quand j'ai bien connu, ça a été mon premier patron, eh bien, à la mère qui vient le voir et qui lui dit, monsieur le professeur, il faudrait absolument, je donne mon rein pour mon fils. Et comme je suis sa mère, ça va marcher, il n'y a pas de problème. En Burger, après bien des réflexions, que c'était un homme d'une très grande intelligence, eh bien, hésite, et puis il fait faire la transplantation par Jean Wesse. Et finalement, cette transplantation a lieu. Mais là, Burger, c'est bien ce qui va se passer. Et encore, nous sommes en 52, et encore, on assiste au bout de 21 jours au rejet de greffe et à la mort du petit Marius. Mmh. La France entière se met à pleurer, hein, parce que on avait beaucoup médiatisé cette affaire.
On comprend donc, toujours pas très bien, d'ailleurs, à cette époque-là. On comprend.
Ça se passe un tout petit peu plus tard, là encore aux États-Unis. Où on va transplanter deux jumeaux univitellés. Enfin, il y en a un qui donne son rein à l'autre, et là, c'est un succès total. On a enfin compris que les jumeaux univitellés, ben, c'était du copier-coller, et quand on prenait l'organe de l'un, bien, il se retrouvait naturellement chez l'autre, et qu'il n'y avait strictement aucun rejet.
Ce qu'on appelle aussi les jumeaux monozygotes.
C'est ça.
Oui, ouais. Oui, bien sûr, des vrais jumeaux. Hein.
Voilà, des vrais jumeaux qui ont du coup un code génétique...
Identique ou presque, en tout cas identique. Voilà. Les frères Ricker, plus précisément.
Et c'est, on doit cette première du coup greffe à Joseph Murray à Boston en 54.
Et à John Merrill. Mm-hmm. Parce que la force du Peter Brigham à l'époque, c'est d'avoir compris que la transplantation devait être multidisciplinaire. Et très vite, Murray, qui était chirurgien, avait eu l'intelligence de s'associer à Merrill, qui était passé à Paris d'ailleurs, pour voir comment Jean Burger a travaillé et comment est-ce que René Cus a implanté ses reins dans la fosse iliaque. Et donc là, ce qui fait la force des États-Unis à ce moment-là, c'est de savoir travailler en équipe. C'est d'ailleurs eux qui vont recruter Kolff pour le rein artificiel, hein, et qui vont en recruter d'autres pour former des équipes multidisciplinaires de transplantation, de véritables programmes d'où viendront les premiers succès. Ce qui vaudra à Murray, donc, un prix Nobel en 1990.
Mais ce qui est encore crucial dans ces années 50 et l'obstacle, enfin en tout cas le frein auquel on se heurte principalement, c'est donc cette question du rejet des greffons. Oui. Là-dessus arrive un autre grand nom de l'histoire des sciences et en lien avec la transplantation d'organes, c'est Jean Dosset, Karim Boudjema. Alors comment lui a-t-il travaillé pour apporter indirectement une pierre majeure à l'édifice de la transplantation d'organes?
Effectivement, ça a été très indirect. Jean Dosset travaillait dans le service de Jean Bernard. Il avait parmi ses malades, il soignait des patients qui avaient des leucémies, des proliférations de lymphocytes et qui avaient des envahissements médullaires, donc qu'il devait transfuser très régulièrement. Et il a eu l'idée, je fais les choses en résumé, comme ça, de mettre au contact du sérum d'un malade d'un patient non malade avec le sérum de ses polytransfusés, donc dépourvus de globules rouges, avec les globules blancs, les mettant les uns avec les autres, et découvrir qu'il y avait finalement des anticorps anti-globules blancs. Et tout le métier, et tout le travail de fond derrière de Jean Dosset a été, avec Benacer Raff en particulier, de savoir caractériser la molécule, l'antigène, à la surface des globules blancs, qui était à l'origine de cette formation antigène anticorps. Et donc c'est à partir de là que se sont enchaînées les études, les découvertes, les recherches, et on s'est rendu compte finalement que ce qu'on appelle le groupe HLA, l'invention donc de Jean Dosset, pour laquelle il a eu le prix Nobel, vous savez, ce groupe HLA...
HLA pour antigène des leucocytes humains.
Human leucocyte antigène, donc est une machinerie d'une complexité inimaginable. En fait, ce n'est pas un antigène, c'est un système, c'est une une machine à la surface de la cellule qui va présenter, qui va servir à présenter au système immunitaire les antigènes, qu'ils appartiennent au soi, c'est-à-dire son propre corps, ou au non-soi, c'est-à-dire à l'extérieur. Quand ils viennent du soi, eh bien, la réaction immune, elle existe, mais elle se fait plutôt dans le sens de la tolérance, donc, alors que quand elles sont du non-soi, cette réaction immune, présentée par la molécule HLA, se fait plutôt dans le sens de l'alloréaction et
du, rejet.
Du rejet avec des lymphocytes toxiques, cytotoxiques, qui vont s'activer, proliférer et tout faire pour chasser l'intrus.
Jean-Noël Fabiani-Salmon, on vient de parler donc de la découverte par Jean Dosset de ce complexe majeur d'histocompatibilité qu'on appelle aussi HLA. L'histoire de la transplantation d'organes, c'est une histoire mondiale. En Australie, il y a un autre grand nom dans ces années 50, c'est Frank McFarlane Burnett. Quel est son apport à lui dans cette histoire rapide, malgré tout, du développement de la transplantation d'organes?
Eh bien, McFarlane Burnett, lui, s'est intéressé à un problème qui est un vrai problème, qui est celui de la création du soi et du non-soi. C'est-à-dire, il a démontré que lorsque le fœtus, l'embryon puis le fœtus, eh bien, sont en maturation, il n'y a pas en quelque sorte de développement pendant le développement embryonnaire, pardon, les cellules acquièrent la capacité de distinguer finalement les cellules étrangères d'un individu. Autrement dit, l'organisme a la capacité d'identifier ses propres tissus, ce qui est la base de la réponse immunitaire et la définition du soi. Autrement dit, lui, il a travaillé sur la définition du soi biologique. Mais à la même époque, et ils ont eu le prix Nobel ensemble d'ailleurs, travaillait un certain Peter Medawar qui, lui, a travaillé sur quelles étaient ces cellules immunocompétentes qui existent chez l'adulte et qui n'existent pas chez l'embryon. Et par des expériences chez le lapin, il a montré, pour être simple et aller vite, il a démontré que lorsqu'on faisait une deuxième greffe de peau, en l'occurrence, chez le lapin, eh bien, elle était rejetée deux fois plus vite, comme si, eh bien, ces cellules immunocompétentes, comme ça qu'on les appelait, maintenant on sait que c'est les lymphocytes, mais à l'époque on les appelait comme ça, eh bien, étaient en quelque sorte instruites du précédent événement et que la seconde fois, elle allait rejeter beaucoup plus rapidement la greffe. En fait, c'est pas tellement différent de ce qui se passe dans un vaccin. C'est un peu la même chose.
Une échelle moins.
La mise en évidence, aussi bien pour Burnett, qui est la maturation en quelque sorte de l'esprit du soi de l'organisme, et McFarlane, qui montre finalement le résultat des transplantations, par les transplantations de peau, qui montre le rejet et la rapidité du rejet quand on a déjà transplanté.
Karim Boudjema.
Oui, pour compléter ce que vient de dire Jean-Noël Fabiani, l'association des deux hommes et de leur découverte va permettre une troisième découverte absolument fondamentale et qui aujourd'hui excite le monde de l'immunologie. C'est-à-dire qu'ils ont mis le doigt sur la possibilité de faire acquérir à un animal receveur la tolérance du greffon qu'il va recevoir. Et comment ? Eh bien, en injectant pendant la période embryonnaire d'un lapin, prenons l'exemple du lapin ou d'un rat de laboratoire, des splénocytes, c'est-à-dire des cellules de la rate d'un animal et hétérologue, en les injectant pendant la vie fœtale et en voyant que l'animal venu adulte était capable de tolérer complètement la greffe de peau issue du donneur. Donc, il y avait à la fois la théorie de McFarlane Burnett, qui était celle de la délétion clonale et qui permettait donc l'acquisition de la connaissance du soi, et aussi la découverte de Peter Medawar, qui lui avait mis en évidence la mise en branle des lymphocytes pour aller détruire les greffes cutanées.
Et on va voir que la tolérance est une question cruciale en matière de transplantation d'organes. Restez avec nous, ce sera juste après ça.
Je mourrai, j'ai décidé, je veux qu'on m'ouvre du côté du cœur et qu'on le sorte, qu'on le transporte et qu'on le greffe sans faille. Yeah, 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 et puis qu'un jour il m'oublie.
La grève du cœur par Daniel Vanguard dans Eureka. Nous parlons tout au long de cette heure de l'histoire de la transplantation d'organes et nous en parlons avec Karim Boudjema, professeur de chirurgie à la faculté de médecine de Rennes, directeur du programme de transplantation hépatique au CHU de Rennes. Nous sommes également en ligne avec Jean-Noël Fabiani-Salmon, ancien chef du département de chirurgie cardiovasculaire de l'hôpital Pompidou. Jean-Noël Fabiani-Salmon, on n'a pas évoqué une question qui est une question concomitante dès l'instant qu'on parle de transplantation, de soi, de non-soi, de chirurgie, de médecine, c'est la question éthique. Dans ces années de développement et des pionniers de la transplantation d'organes, quelles sont les réactions à ces premiers essais et quelles sont les questions éthiques qui se soulèvent, si tant est que des questions éthiques majeures se soulèvent à ce moment-là?
Ben disons que toutes les premières transplantations, c'est clair, c'est les transplantations rénales, elles ne soulèvent pas particulièrement de questions éthiques portées par aussi la médiatisation, parce que la greffe a toujours été supportée par la presse et la médiatisation a toujours été très importante. C'est pour ça qu'on parlait de transplantation tout à l'heure, de tête ou de n'importe quoi. Les journalistes avaient prêté à Carrel, par exemple, la possibilité de faire des choses, des miracles, des choses extraordinaires. Bien entendu, beaucoup de choses sont exagérées. Donc, la question d'éthique va survenir pour un problème tout à fait simple, c'est que toutes les greffes vont être faites jusqu'aux années, disons, 1960, 65, 66, hein, y compris les transplantations hépatiques en 63, la transplantation du pancréas en 66, beaucoup de transplantations, la plupart des transplantations ont été faites, une n'a pas été faite, c'est la transplantation cardiaque. Mmh. Et pourquoi n'a-t-elle pas été faite alors qu'elle est parfaitement réglée par un Américain qui s'appelle Norman Shumway, qui a mis la technique parfaitement au point chez l'animal? Pourquoi n'est-elle pas faite? Bien tout simplement parce que la définition de la mort n'est pas dans la plupart des pays. La définition de la mort, c'est la mort cardiaque. Alors, s'il y a la mort cardiaque, bah, par définition, on ne peut pas transplanter un cœur. Il faut donc être capable de changer la définition de la mort pour pouvoir faire une transplantation cardiaque. Il faut être honnête et de dire quand même que la première transplantation cardiaque a eu lieu grâce à Christian Barnard en Afrique du Sud, que Christian Barnard a bénéficié d'une législation qui était plus souple, en quelque sorte, que la législation américaine, pour pouvoir faire son acte. Parce que Shumway n'avait pas pu le faire, parce qu'on n'avait pas l'autorisation d'aller prélever des cœurs. Donc la question éthique aboutit à un changement de paradigme, en quelque sorte, qui est celui de qu'est-ce que la mort? Et la mort va être définie grâce à un article fondamental de deux réanimateurs français qui s'appellent Goulon et Mollaret, qui vont démontrer ce qu'est le coma dépassé et que la mort est une mort cérébrale et que quand la mort est cérébrale, on peut prélever tous les organes.
En 1968, c'est en 1968 finalement qu'en France on redéfinit la mort. Ça n'est plus la mort du cœur, c'est la mort du cerveau.
La circulaire Jeanneret.
Absolument.
Karim Boudjema, les années 60, c'est des années, on le comprend, et Jean-Noël Fabiani-Salmon le suggérait à l'instant, c'est des années où les questions, et en tout cas la pratique, les essais, les tentatives de transplantation d'organes partent tous azimuts. On parlait du pancréas, du foie, parlez-nous un petit peu du foie, parce que vous, c'est votre spécialité.
Alors le foie, la première grève de foie, fois a été réalisé à Denver, Colorado, par Thomas Starzl.
Qui avait un surnom, je crois, un petit peu audacieux. On le surnommait le boucher de Denver parce qu'il avait fait beaucoup de...
Qu'il ne mérite vraiment pas parce qu'il sera ensuite glorifié par le monde de la transplantation, à tel point qu'on évoquera son nom pour lui donner le prix Nobel. Mais il a abordé une question difficile. Imaginez greffer un foie, le foie qui est le lieu de la fabrication des facteurs dits de la coagulation. Donc opérer un malade qui ne coagule plus, c'est compliqué. Je crois qu'il y a une cabale qui a été un petit peu montée contre lui dans le département de chirurgie de Denver pour le pousser dehors. Enfin, lui aussi a été, comme bien d'autres dans l'histoire de la médecine, victime un petit peu des jalousies et de la, comment dire, ça n'allait pas bien, de l'envie. Alors donc, pour le plus grand bien de la transplantation, Thomas Starzl est parti à s'installer en 1980 dans l'université de Pittsburgh, qui à l'époque était une petite, ou en tout cas une moyenne université qui vivait sous l'ombre de Baltimore et de Philadelphie. Et donc, et là, il a développé le plus gros programme de transplantation hépatique que le monde ait jamais connu, à tel point que dans les années 95-96, il se faisait 600 à 700 greffes de foie à l'hôpital de Pittsburgh, dans ce magnifique building où tous les chirurgiens du monde, y compris moi, venaient assister aux greffes. On débarquait de l'avion, on sortait de l'avion, on arrivait à 2h du matin à l'hôpital, il y avait une greffe en cours. C'est une époque absolument fabuleuse. Et Thomas Starzl a façonné la transplantation hépatique. Il en a fait une thérapeutique d'une efficacité exceptionnelle dans le traitement des maladies chroniques et des maladies aiguës du foie, mais il a collaboré aussi de manière très importante à la compréhension des mécanismes de rejet et des mécanismes de tolérance. Et ça, c'est son grand truc. Malheureusement, il est décédé avant d'avoir pouvoir mis un point final à ce chapitre-là qu'il avait bien entamé. Il est décédé en 1997.
On l'a compris, donc le rejet est le problème clé en matière de transplantation d'organes lié à un rejet du système immunitaire vis-à-vis du non-soi. Jean-Noël Fabiani-Salmon, quelles ont été les prémices, du coup, de traitements immunosuppresseurs pour empêcher cette réaction normale, naturelle de l'organisme?
Alors, écoutez, bien sûr, les chirurgiens et les médecins ont essayé de limiter, en quelque sorte, cette agression lymphocytaire. Au début, on utilisait la radiothérapie pour presque faire des malades aplasiques au moment de recevoir la greffe. Ensuite, on a trouvé un certain nombre de médicaments qui s'opposaient à ce qu'on appelle maintenant la réaction immunitaire, c'est-à-dire les corticoïdes, c'est-à-dire aussi d'autres médicaments comme le méthotrexate, comme l'imurel, qui ont été utilisés pour les transplantations rénales en particulier. Il est clair que le grand changement fondamental, il est lié au fait que le laboratoire Sandoz demandait à ses ingénieurs, quand ils partaient en vacances, de prendre une petite boîte en bois avec eux et de remplir cette boîte de terre, de la terre de l'endroit où ils se trouvaient. Leur idée était en fait de trouver de nouveaux antibiotiques, de nouveaux champignons à vertu antibiotique. Et un jour, en 69, un certain Hans-Peter Frey part pour les plateaux du nord de la Norvège, et il ramène une petite boîte de terre. Et là, on trouve un nouveau champignon qu'on ne connaît pas, et on espère qu'il va être un antibiotique. Et ce médicament, est très particulier. On espère qu'il va s'opposer aux microbes. Pas du tout. Il produit même une substance qu'on appelle, parce qu'elle est cyclique, la cyclosporine. Et cette substance, on ne sait pas à quoi ça sert. Alors on la met sur une étagère, puis on attend. On attend quoi? On attend finalement qu'un jour, un certain Jean-François Borel, qui est chargé toujours par Sandoz pour trouver des médicaments qui s'opposent à la réaction immunitaire, ne s'y intéresse. Et là, il découvre que cette molécule, la cyclosporine, dans les années 80, on est d'accord, même un peu avant, a les meilleures capacités pour s'opposer au rejet. Seulement, Sandoz s'intéresse pas tellement au rejet de greffe, parce que pour eux, c'est ce qu'on appelle un un marché de niche. C'est pas beaucoup de gens les transplantés. Eux, ce qu'ils veulent, c'est des médicaments qui soient vendus sur une large échelle. Et là, il y a un coup formidable de Borrell qui est de dire, mais oui, mais ça s'impose aussi à toutes les maladies qui sont auto-immunes, en particulier à polyarthrite rhumatoïde. Et là, c'est beaucoup de malades. Mmh. Autrement dit, les transplanteurs ont été sauvés grâce aux rhumatisants parce que ce médicament a pu se développer. Et là encore, bon, on parlait à l'instant de Starzol, qui a été un des premiers à l'utiliser avec succès chez l'homme. Et je confirme ce que disait le professeur Boudjema, ayant connu Monsieur Starzol, je dis bien Monsieur Starzol, c'était pas du tout un boucher, c'était un homme d'une très grande compétence, d'une très grande classe aussi, d'une très grande simplicité, et donc il mérite le respect de tous les chirurgiens.
Mais c'est vrai que son nom revient dès qu'on parle de greffe, même pas forcément pour le foie, pour les poumons, etc. Il a eu une influence capitale.
Capitale, je crois qu'on peut dire sans exagérer que l'émancipation de la transplantation a été sa chose, c'est lui qui l'a faite. Il a écrit un livre absolument magnifique qui s'appelle The Puzzle People, donc qui raconte cette épopée de la transplantation, où il évoque ses débuts en transplantation rénale, parce qu'il a été un transplanteur de rein, il a été un transplanteur de pancréas, il a participé à des transplantations cardiaques et à des doubles transplantations cardiaques, et il a été le premier à faire une double greffe cœur foie, pardon. Il a une statue dans les jardins de l'université de Pennsylvanie à Pittsburgh. Il est assis là sur un banc très très calme. Ça a été fait après sa mort. Alors, si vous avez envie de lire son livre, vous prenez le livre, vous allez vous asseoir à côté de lui et dans ce magnifique parc, vous lisez cette merveilleuse histoire.
Pour en revenir du coup, Karim Boudjema, à cette décennie 70, à ces découvertes fortuites mais utiles, notamment de la cyclosporine, on évoquait à l'instant. Est-ce que la décennie 70 est marquée aussi par l'avènement de traitements immunosuppresseurs beaucoup moins lourds à supporter? On parlait de radiothérapie tout à l'heure. Là, c'est vraiment des choses qui sont un peu moins lourdes à supporter pour les patients, ou est-ce que c'est encore assez complexe?
La cyclosporine a été une révolution en matière de transplantation. Je crois que l'avènement de la cyclosporine a permis véritablement à la greffe de devenir thérapeutique et non plus l'opération de la dernière chance que vous évoquiez à juste titre tout à l'heure. Et puis on a fait d'autres découvertes. De la même manière, au pied du mont Tsukuba, au Japon, dans la terre, on découvre un petit champignon, Streptomyces cutubensis, d'où on va extraire une molécule, le FK506, le tacrolimus, qui agit à peu près de la même façon que la cyclosporine et qui va se révéler, lui, être aussi un excellent immunosuppresseur avec un petit peu moins d'effets secondaires que la cyclosporine et qui est aujourd'hui encore la référence, enfin l'immunosuppresseur de base autour duquel on ajoute quelques drogues que l'on associe entre elles pour pouvoir les utiliser à petite dose et pour ne pas en avoir les effets secondaires. Et donc, on parle aujourd'hui de régime d'immunosuppression pour amener la tolérance des greffons.
Jean-Noël Fabiani-Salmon, est-ce qu'à partir du développement de ces traitements immunosuppresseurs efficaces, on peut dire que la transplantation d'organes prend son envol dans les décennies 80-90?
Absolument, elle prend dans avec tous les organes, les différents organes, et rapidement on s'aperçoit qu'elle est limitée plus par le nombre de donneurs possibles que par ses possibilités et les capacités qu'on aurait d'utiliser la greffe cardiaque, hépatique, rénale et ainsi de suite. Et donc c'est vrai pour tous les organes. D'où la nécessité de trouver d'autres solutions. Et ces autres solutions, je pense qu'on va en parler dans un instant, c'est l'hétérogreffe, c'est-à-dire la greffe venant de l'animal, ou les organes artificiels.
On en parlera,
et
bien
c'est,
sûr.
C'est notre problème actuel.
On en parlera, mais on n'a pas la chance tous les jours dans Eureka de recevoir un inventeur. Alors Karim Boudjema, vous-même, vous avez participé à cette épopée de la transplantation d'organes en inventant, en créant une technique, la technique de la greffe auxiliaire du foie, en 93, si je ne dis pas de bêtises. Que s'est-il passé? Comment avez-vous créé cette greffe auxiliaire du foie? En quoi elle consiste?
Alors, pour remettre les choses à leur place, je n'ai pas créé, on faisait déjà des greffes auxiliaires d'organes. Mais disons que j'ai apporté la preuve du concept, parce que jusque-là, c'était une succession d'échecs, de difficultés qui faisaient qu'on ne pouvait pas utiliser cette technique. Mais ça consiste tout simplement dans une maladie aiguë du foie, pour laquelle on a l'espoir de voir le foie natif régénéré, d'apporter un morceau de foie, une espèce de roue de secours, qu'on greffe à côté du foie malade, et en attendant qu'il régénère, il va assurer une fonction hépatique et éviter donc le coma inéluctable dans lequel tombaient les malades atteints d'insuffisance hépatique aiguë grave. Donc, chez un enfant de 4 ans, atteint d'une hépatite dite fulminante, qui était condamné à mourir en l'absence de transplantation, plutôt que d'avoir à lui greffer un demi-foie et à lui enlever son foie à lui, on a eu l'idée d'enlever une moitié de son foie et de la remplacer exactement comme une pièce de puzzle par un demi-greffon. Ce demi-greffon a assuré une fonction hépatique immédiatement, a sorti l'enfant du coma. Et on a vu progressivement son foie natif régénérer et assurer une fonction hépatique normale, à tel point qu'on a pu retirer le greffon au bout de quelques mois et arrêter définitivement le traitement immunosuppresseur. C'est la première fois que l'on pouvait parler de guérison à partir de la transplantation. Parce que avant cela, et toujours aujourd'hui, la transplantation, ça n'est que transformer un état en un autre. L'état de mort imminente en une situation de greffer avec les petits inconvénients que ça continue de représenter du fait justement des traitements immunosuppresseurs.
Jean-Noël Fabiani-Salmon, vous évoquiez tout à l'heure l'actualité. Peut-être qu'on peut rappeler l'état dans lequel se situe aujourd'hui le don d'organes et la pénurie dans laquelle on se trouve. Il y a toujours plus de demandeurs que de donneurs d'organes. Donc du coup, ça oblige la recherche scientifique à trouver des solutions alternatives. Alors, on a parlé tout à l'heure de rein artificiel. On peut parler peut-être du cœur artificiel, qui est une des grandes réussites de la technologie médicale de ces dernières décennies. Expliquez-nous un petit peu ce qui a été mis au point, notamment par le professeur Carpentier, avec le cœur Carmat. Et puis ensuite, on évoquera d'autres pistes de recherche actives.
Oui, alors finalement, Alain Carpentier travaillait sur un concept de cœur artificiel depuis déjà très longtemps. C'est plus de 20 ans de travail. Et c'est sa rencontre avec Monsieur Lagardère qui a permis de faire décoller le travail sur ce cœur artificiel. Où pendant des années, 5 ingénieurs plein temps ont travaillé pour fabriquer cette prothèse. La grande idée d'Alain Carpentier, qui a toujours été son idée, on en reparlera si on parle des transplantations animales, ça a été d'être capable d'enduire toute surface qui n'est pas une surface biologique par une sorte de quelque chose qui est admis par l'organisme, de façon à éviter le traitement anticoagulant. C'est ce qui s'est passé pour les valves cardiaques, c'est ce qui s'est passé pour le cœur Carmat. Et l'idée du cœur Carmat, c'est de créer un cœur qui retrace en quelque sorte les performances d'un cœur normal, d'un cœur humain, mais qui a aussi à l'intérieur de lui-même, eh bien, toute cette surface qui est une surface que peut facilement admettre l'organisme receveur. Donc, le cœur Carmat, eh bien, il a encore un certain nombre d'inconvénients. Il ne s'agit pas de dire que tout est réglé. La source d'énergie est encore une source extérieure, parce que si on laissait les piles à l'intérieur de l'organisme, ça entraînerait une montée de température de l'ensemble de l'organisme. Donc ça, c'est le problème n'est pas complètement réglé, mais il va se régler, parce que tout ce genre de choses se règle progressivement avec le temps. La prothèse est encore, les prototypes sont encore un peu trop gros. Il va falloir les diminuer, notamment pour les femmes qui sont un peu menus pour qu'elles puissent bénéficier aussi de transplantation et ainsi de suite. Donc, le cœur artificiel est déjà sur les rails. C'est le cœur artificiel implantable. Eh bien, on peut penser que dans les années qui viennent, dizaines d'années qui viennent, eh bien, on aura des cœurs artificiels implantables qui pourront finalement servir à des gens de plus de 65 ans, puisque la transplantation cardiaque s'arrête à peu près à 65 ans actuellement. Il y a des gens qui ont plus de 65 ans, qui ont des problèmes de cœur et qui voudraient survivre avec une autre technique. Et c'est là où le cœur artificiel prend toute son indication.
Karim Boudjenma, dans ce contexte donc de pénurie, on se tourne vers des organes artificiels. On parle aussi de plus en plus, alors c'est là à l'état de recherche très fondamental, de xénogreffe, d'aller finalement prélever des organes animaux pour les greffer à des humains. Expliquez-nous un petit peu où on en est de ces travaux autour des xénogreffes.
Je crois qu'on en est encore très loin. parce que tout est fait dans l'organisme pour empêcher qu'il y ait une transgression de la barrière des espèces. Autrement dit, quand on veut vous greffer un rein, pour prendre cet exemple de porc ou de chimpanzé, il est immédiatement ou quasiment immédiatement rejeté parce que nous avons dans notre système immunitaire tous les outils qu'il faut pour rejeter immédiatement ce qui appartient à une autre espèce. Ces barrières sont extrêmement difficiles à franchir, à éviter. Donc, ça n'a pas empêché un certain nombre de tentatives. La première, Jaboulet, je vous rappelle.
Bien sûr.
Ça ne marchait pas au début du XXe siècle. Et puis, on a fait les choses de manière un petit peu plus éclairée après. James Hardy, à Jackson, Mississippi, a greffé un cœur de babouin ou de chimpanzé, je ne sais plus, à un pauvre homme à qui il avait expliqué que c'était sa seule chance de s'en sortir. Ça n'a pas marché, mais on savait que ça allait être difficile à cette époque. Thomas Starzl, lui-même, en 1992, va greffer des foies de chimpanzés à des hommes atteints d'hépatite C au stade terminal, qui étaient contaminés parallèlement par le virus du sida, à qui on ne pouvait pas proposer de transplantation classique à partir d'un greffon humain, et à qui on a proposé un greffon de singe, donc de chimpanzé ou de babouin, je ne sais plus exactement, mais toujours est-il que c'était des foies de singe qui résistaient au virus du sida, au virus de l'hépatite C. Alors, ça a marché pendant quelques semaines. Malheureusement, nos organes sont soumis à ce qu'on appelle les phénomènes d'autorégulation. Par exemple, le foie humain est programmé pour fabriquer de l'albumine à une hauteur de 35-40 grammes par litre, par exemple. Et quand ça va au-delà, il en fabrique plus. Quand ça va au-dessous, il se met à en fabriquer. Chez le chimpanzé, on n'est pas à ces niveaux-là. On est à 20-25 grammes d'albumine synthétisée, donc de 25 grammes par litre dans le sang. Et quand le sang arrive à 25 grammes, le foie de chimpanzé, il arrête d'en fabriquer. Et on ne peut pas vivre sans gonfler immédiatement, sans faire des œdèmes partout. C'est pour ça, alors que sur le plan immunologique, on avait réussi avec le tacrolimus, avec le sérum antilymphocytaire, en combinant les deux, à entraîner une certaine tolérance. Et puis récemment, il y a eu la fameuse greffe de cœur xénogénique, mais je vais laisser Jean-Noël Fabiani en parler, c'est son truc.
Jean-Noël Fabiani, très courte intervention, puisqu'on arrive déjà au terme de cette émission, et pour conclure cette émission.
Écoutez, déjà depuis 1968, toute l'équipe d'Alain Carpentier, on travaille sur les hétérogreffes de porc, puisqu'on prend des valves de porc pour les mettre, remplacer les valves humaines. Eh bien, c'est une valve, c'est pas un organe. Il n'empêche que les problèmes génétiques peuvent finalement se régler lorsque l'on va faire, bien sûr, une manipulation génétique pour transformer des porcs, en quelque sorte, dans des organismes qui seraient acceptables par l'homme. Alors, en effet, il y a eu cette fameuse greffe dont parlait le professeur Boudjema, qui a eu lieu le 11 janvier 2022. Bon, c'était un essai, ça n'a pas été un grand succès, finalement. Simplement, il faut savoir que les chirurgiens, enfin les médecins, sont en train de chercher pour manipuler génétiquement les animaux, pour les rendre acceptables par l'homme en tant qu'organe potentiel. Alors ça pose un autre problème éthique. Est-ce qu'on a le droit de faire ça, d'utiliser des animaux pour remplacer des organes humains? Ça, c'est une autre discussion.
Une autre histoire.
Très importante. Les défenseurs des animaux vont bien sûr s'insurger devant cette possibilité.
Et l'histoire de la transplantation d'organes ne fait que commencer. Merci beaucoup à tous les deux, Karim Boudjema et Jean-Noël Fabiani Salmon, d'être venus nous raconter cette épopée chirurgicale. Organe d'honneur pour finir en musique par DJ Shadow pour conclure cette émission. Un grand merci à toute l'équipe de Reka, Alexandra Delbo, Mariam Ibrahim, Loïc Dutoit, Garance Prema Agnolo, David Jakubovias à la réalisation accompagné de Sam Bakiast. À la technique aujourd'hui, c'était Grégory Wallon. Vous pouvez, comme chaque jour, réécouter cette émission sur le site franceculture.fr ou bien sur l'appli Radio France. On se retrouve bientôt dans le grand bain de Reka et d'ici là, n'oubliez pas, tout reste à découvrir.
Chloé ?
Oui ?
Tu viens ? Je vais te montrer les étoiles.
Moi, les étoiles, je suis pas contre. Surtout si ça me fait aller me coucher plus tard.
Le premier podcast France Culture, Savoir et Science, dédié à la jeunesse. Les mondes de Chloé. Le nez en l'air et la tête dans les étoiles. Histoire de grandes et petites ours. Entre fiction et astronomie, la première saison consacrée au ciel et aux constellations. Les mondes de Chloé, à la belle étoile, par Alice Buteau et Charles Trou sur franceculture.fr et l'appli Radio France.